9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Auditrices et auditeurs, Maître Serran est ravi de vous retrouver, oui, pour une petite heure en tête à tête. Alors, je sais que c'est trop court. Eh bien, je vous invite à harceler au téléphone Monsieur Philippe Robichon pour revendiquer une émission de plus d'une heure et c'est tout. Mais, avant d'harceler le maître des lieux, évoquons l'actualité de la semaine et cette semaine, mon cher Philippe, une fois n'est pas coutume, les femmes sont à l'honneur. Évoquons tout d'abord les déclarations de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a mis à néant en une déclaration les aspirations d'une grande majorité des habitants de ce pays. Et oui, il semblerait, selon Madame la Ministre, que les maisons individuelles étaient un non-sens écologique, économique et social. Ainsi, pour Madame la Ministre, qui, rappelons-le, est elle-même propriétaire d'un pavillon avec jardin, le modèle de pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Alors certes, elle est revenue sur ses déclarations, mais dit, c'est dit quand je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui continuent de travailler en espérant acquérir leur petite maison pour un meilleur confort de vie. Mais malheureusement, il y a des personnes payées par nos impôts, comme Madame la Ministre, qui ont pour mission de penser pour nous. Devrons-nous un jour, mon cher Philippe, fournir à la demande du gouvernement une radiographie de notre trou de balle pour s'assurer que celui-ci répond bien à une norme édictée par le gouvernement ? La question est posée. En tout cas, ça me donne vraiment envie d'aller voter aux prochaines élections pour mettre dehors cette équipe de bras cassés qui gère le pays comme on gère une start-up. Mais cette semaine, il y a eu encore plus fort que les déclarations débiles de la ministre. L'association Oser le féminisme n'a rien trouvé d'autre à faire que de dénoncer la cérémonie des Miss France. L'association considère que les jeunes filles qui se présentent seraient considérés comme des salariés, par conséquent, devraient être rémunérés. Il y aurait un lien de subordination. La preuve, elles sont sommées de ne pas boire d'alcool ou de consommer des substances illégales en public. Si ça, c'est pas un argument imparable. Pour ma part, j'aurai du respect pour ce type d'association quand ces militantes mouilleront le maillot, si je puis dire, pour soutenir les femmes afghanes, par exemple, qui sont sous le joug des talibans. Mais là, il faut du courage. J'aurai du respect pour ces militantes quand elles lutteront contre l'excision qui se pratique encore dans 18 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Mais pour cela, il faut du courage. Voilà, des combats sérieux, mesdames, mais batailler pour interdire Miss France, c'est n'importe quoi. Mais ça me rassure. On a souvent des exemples d'hommes qui se comportent comme des idiots. Et bien là, on a deux exemples que je viens de citer. Et on a la démonstration que certaines femmes font partie de la même catégorie. C'est peut-être ça, après tout, l'égalité homme-femme. Allez, à vous la parole. Contactez-nous au 01 53 48 3000. Posez vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui est notre chef d'orchestre, Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Oui, 01 53 48 3000, c'est le standard de Beurre FM. Et vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Maître Serran, vos questions d'ordre juridique. L'actualité de la semaine, Maître Serran, c'est que nous avons des nouveaux, des nouvelles chaises.
C'est vrai, des nouvelles chaises extraordinaires, elles sont superbes.
Non, vous auriez dû commencer par ça.
Oui, c'est vrai, mais bon...
Êtes-vous bien assis, Maître Serran?
Alors, je suis super bien assis. Ouais. Et elles sont toutes propres, toutes belles, design... Ouais. Mais sinon, c'est-à-dire que comme je vais être augmenté, est-ce que tout est passé?
Non,
est
alors passé dans exactement. Ce que je veux vous dire que votre augmentation est là.
D'accord.
Vous êtes assis
donc
sur votre augmentation.
Cette année.
Ouais.
C'est d'accord.
En mode Kaira ce matin, Maître Serran.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Écoutez, rien, je sais pas. J'ai essayé de me remémorer mes jeunes années où j'avais des cheveux, j'étais beau, j'étais un peu une Kaira.
D'accord.
Ouais. Voilà. Nostalgie.
On devrait photographier Maître Serran.
Oui, d'accord.
Kaira pour le mettre sur le site de Beurre FM.
D'accord.
On foutra la tête.
Non.
Non,
non,
vous voulez pas. Bon, non. Bien. On va parler, tiens, d'un métier qu'on aime bien. Ouais. Il y a les syndics et les notaires. Parce que, disons, en droit de notaire, ça y va. Hein. On peut y aller. Et vous posez une question, alors, qui vient de votre pratique, hein, puisque c'est un cas pratique. C'est un client qui vous a suggéré cette thématique. Et la question qu'on va vous poser ce matin, Maître Serran, c'est peut-on engager la responsabilité d'un notaire? Alors, de quelle faute un notaire peut-il être responsable?
Alors. Vous l'avez bien expliqué, c'est-à-dire que moi j'ai une jeune femme qui est venue donc pour me dire qu'elle avait acheté un bien destiné à la location et il s'est avéré quelque temps après qu'il existait un arrêté préfectorale interdisant la location de ce bien puisque ce bien n'était pas aux normes. Donc la question s'est posée de savoir comment est-ce que le notaire a pu passer entre les mailles du filet et puis faire en sorte de conclure cette vente alors que juridiquement cette vente ne pouvait pas être conclue ou à tout le moins informer cette demoiselle pour lui dire écoutez voilà les conditions et puis vous comprenez bien que si ces conditions avaient été connu, le prix en aurait été ressenti. Donc quand c'est comme ça, et quand on a un notaire qui commet une faute, on a d'abord ce qui s'appelle la responsabilité civile.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que le notaire savait.
Le notaire ne pouvait pas ne pas savoir. C'est ça le truc. On n'est pas en train de dire qu'il y aurait, entre guillemets, une complicité objective entre le vendeur du bien et le notaire. Parce que si ça avait été le cas, dans ce cas-là, on est sur du pénal. On est sur la responsabilité civile, c'est-à-dire que le notaire a une obligation alors d'information à l'égard de son client et il peut pas dire qu'il ne pouvait pas savoir, parce que quand on est notaire, on a accès à toutes ces informations. Et à partir du moment où, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le notaire volontairement a fait en sorte que, mais à partir du moment où le notaire serait passé à côté de cette information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir cette information, il est susceptible d'engager sa responsabilité. Quand vous rédigez un acte de vente, vous allez interroger toute une série d'administrations. À partir de ce moment-là, si vous interrogez, je veux dire, les bonnes administrations, si vous faites votre boulot correctement, de facto, les administrations vont vous répondre pour vous dire que ce bien est susceptible d'être loué, pas loué, habitable, pas habitable. Donc, à partir du moment où vous concluez la vente et que cette information vient après, alors que cet arrêté existe depuis très longtemps, il y a une faute de la part du notaire. Maintenant, je le redis, on n'est pas ici pour dire que c'est une faute volontaire de la part du notaire pour nuire à sa cliente ou dans l'intérêt du vendeur du bien. C'est une faute qui relève de la responsabilité civile. Et lorsque vous êtes dans ce type de cas, c'est vrai qu'on a l'image, ce qui est vrai d'ailleurs, du notaire hyper rigoureux, hyper carré. Il est là pour, comme on dit, authentifier des actes. Donc un acte authentique, juridiquement parlant, et si on a des juristes qui nous écoutent, évidemment, ça a un sens. Donc on a cette image de rigueur, et je le redis, c'est une réalité. Il se trouve, encore une fois, que même si on a cette image de rigueur, on peut passer à côté de quelque chose. C'est ce qui fait d'ailleurs que les notaires, mais comme les avocats, il y a une obligation d'assurance, et c'est évidemment l'assurance qui va être mise en cause et qui prendra en charge les dommages et intérêts, si dommages et intérêts il devait y avoir. Et dans ce cas, quand vous êtes soumis à ce type de difficulté, le premier réflexe, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller courir chez un avocat pour dire, écoutez, le notaire a fait ça, engager sa responsabilité. Il faut d'abord se rapprocher du notaire lui-même. Parce qu'il y a deux options. Ou bien le notaire reconnaît sa responsabilité en disant effectivement, voilà, je suis passé à côté, donc c'est une faute. Et il fera ce qu'on appelle une déclaration de sinistre. Et ensuite, vous entrerez en contact avec sa compagnie d'assurance. Ou bien alors, le notaire considère qu'il n'y a pas de responsabilité de sa part. Et dans ce cas, vous pouvez, avant de déclencher les hostilités, d'abord saisir un médiateur. Et les coordonnées du médiateur, vous les obtiendrez auprès de la Chambre des notaires. Donc vous pouvez, dans un premier temps...
Donc le médiateur du notariat.
Voilà, le médiateur du notariat pour essayer de voir, comme dirait l'autre, si on peut, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment responsabilité du notaire et est-ce qu'on peut trouver, on va dire, un terrain d'entente.
Il y en a un par département.
C'est un par département.
Ouais, on les trouve où, ces médiateurs?
Écoutez, comme dirait l'autre, enfin l'adresse, je l'ai pas personnellement, mais vous allez sur le site, vous tapez notaire et ils sont organisés par département et c'est la chambre des notaires qui vous donnera les coordonnées du médiateur. Il faut, encore une fois, d'abord passer par là. On le redit, il s'agit pas non plus de tirer à boulet rouge sur un notaire pour la simple et bonne raison que peut-être que le client se trompe aussi. Donc si vous cherchez des poux dans la tête d'un notaire alors que vous vous rendez compte à la fin que c'est vous le responsable, il peut aussi se retourner contre vous. Donc pas de précipitation à la matière. D'abord, on contacte son notaire, on essaie de comprendre ce qui se passe. S'il n'y a pas de dialogue, c'est le médiateur du notariat. Et puis ensuite, on peut passer à la chambre départementale des notaires qui vont, entre guillemets, l'interroger, voir encore une fois ce qu'il en est. Et puis, dans l'hypothèse où il y aurait zéro accord entre les uns et les autres, où le notaire ne reconnaîtrait pas sa responsabilité, mais que le client, lui, considère que le notaire est ou serait responsable, ça relève ensuite du tribunal judiciaire. Donc, on est après, évidemment, dans le cadre d'un procès, il faudra prendre un avocat, puisque l'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Encore une fois, c'est... Et on fera un jour aussi la responsabilité évidemment des avocats, mais voilà, ce sont des professions qui sont ultra réglementées, ce sont des professions qui sont très surveillées, et ce sont des professions où quand on a une difficulté, en tout cas quand il y a une erreur de droit qui a ou aurait été commise par le notaire, c'est entre guillemets très bien organisé. D'abord, encore une fois, vous êtes accompagné. Et puis, dans l'absolu, s'il n'y a pas de terrain d'entente, eh ben c'est un magistrat donc qui sera amené à statuer.
Et qu'est-ce qu'on obtient donc finalement si on se retourne alors, contre le notaire et qu'on a gain de cause ?
Alors, on peut solliciter deux choses, c'est-à-dire que si vous avez acheté un bien, par exemple, exclusivement pour la location ou alors pour y habiter, mais qu'on vous dit que administrativement parlant, vous pouvez pas le louer ou vous pouvez pas y habiter, vous pouvez toujours demander l'annulation de la vente. Donc, ce serait une option. Vous pouvez aussi éventuellement engager la responsabilité du vendeur, puisque le vendeur, il n'est pas exclu que ce dernier ait eu aussi l'information. Donc, c'est une procédure engagée à la fois contre le notaire et à la fois contre le vendeur. Et puis, dans l'hypothèse où annulation, il ne peut pas y avoir, on va compenser, comme on dit, votre préjudice par des dommages et intérêts. Alors, je veux dire tout simplement, mais ouais. Bon, ça peut aussi... d'abord, les dommages et intérêts peuvent permettre de remettre en état le bien si, justement, vous ne pouvez pas le louer parce que le bien est dans un état quasi insalubre. Donc voilà, ça se traduit par de l'argent, tout simplement, pour être direct et pour être...
Mais on peut obtenir réparation.
Peut obtenir réparation, et je le redis, hein, le notaire sortira pas l'argent de sa poche, si ce n'est la cotisation auprès de sa compagnie d'assurance. Les notaires sont assurés, donc il n'y a pas un risque, entre guillemets, d'insolvabilité. Donc c'est la compagnie d'assurance du notaire qui prendra ça à sa charge.
Bien. Une profession qu'on connaît mal, finalement, hein.
Bah, c'est une profession qu'on connaît. Alors, on a l'impression, comme ça, de dire que ce sont, entre guillemets, des notables, et puis, voilà, ils sont un peu au-dessus du panier, et pour une signature, ça coûte une fortune. Il faut aussi comprendre.
Ce qui est vrai.
Encore une fois, c'est-à-dire que...
Les honoraires des notaires...
Ce qui est important de savoir, c'est que on n'a pas qu'un aspect d'honoraires libres. C'est-à-dire c'est extrêmement réglementé, il y a des pourcentages très précis qui sont, encore une fois, qui relèvent de la loi et des décrets. Donc oui, bien sûr que ça peut sembler élevé, mais à leur décharge, il faut quand même préciser qu'ils sont pas, en tout cas dans les actes de vente, totalement libres de fixer le montant de leur prestation. Donc il y a aussi cet aspect-là. Faut pas oublier que dans les droits de mutation, il y a beaucoup d'argent qui revient à l'État pour être assez général. Mais c'est vrai que c'est une profession où il y a pas, entre guillemets, de sorte de proximité comme il peut exister, on va dire, une proximité avec des avocats, avec des juristes. Mais le notaire est un peu au-dessus du panier. Ça fait un petit peu noble et voilà, ou petit bourgeois, mais ils sont pas tous comme ça, évidemment. Hein. Après, encore une fois, ça, c'est plus des considérations personnelles. Le notaire est aussi proche de ses clients.
Est-ce que vous connaissez des notaires qui, comme vous, sont des racailles du notariat?
Oui.
Vous avez des noms?
On peut pas balancer des...
Ah, on peut pas balancer comme ça.
On peut pas.
01 53 48 3000. Dans un instant, vous posez vos questions à Maître Serran, toutes vos questions juridiques. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous et qui répond à vos questions au standard. Au 01 53 48 3000, vos questions juridiques à Maître Serran. Et c'est Amina qui est avec nous. Bienvenue Amina. Amina.
Allô ?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour Monsieur Robichon.
Bonjour Madame Amina. Comment allez-vous ?
Bien, je vous remercie. Quel plaisir de vous entendre.
Ah ben, écoutez, le plaisir est partagé, d'autant plus que le plaisir est double. Vous allez pouvoir parler à Maître Serran.
Et Maître Serran, la même chose.
Bonjour Amina. Bonjour Amina, bonjour, on vous écoute. Bien. Ça va, alhamdoulilah, et vous-même?
Ça va, je vous remercie. Quel plaisir aussi de vous entendre tous les vendredis.
Ah bah écoutez, alors bon, bah encore une fois, j'ai bien fait de venir ce vendredi.
Ouais, c'est vrai.
Oui, merci Amina, merci bien.
Venir, on a besoin de vous.
C'est gentil Amina.
Voilà, Maître Serran, une question. Voilà, c'est un couple franco-tunisien qui se sont mariés en Tunisie et l'un des époux veut demander le divorce. Est-ce qu'il peut divorcer dans son pays, qui est la Tunisie ?
Alors, après ce mariage, le couple est resté en Tunisie, s'est installé en France.
Ils ont des enfants, ils ont des enfants.
Ouais, mais alors ça relève de la compétence d'un juge français, puisque ça va être le juge du territoire sur lequel le couple a sa résidence principale. Donc si c'est un couple qui effectivement après le mariage est venu en tout cas s'installer sur le territoire français ou a fait sa vie sur le territoire français, donc il faudra penser à saisir un juge auprès du tribunal judiciaire du lieu de domicile du couple. Donc n'engagez pas de procédure à ce stade-là au pays, puisque ce jugement qui sera rendu au pays ne sera pas applicable sur le territoire français.
Bien.
On a beaucoup de questions récemment sur cette question-là, Maître Serran.
C'est une question qui ne se posait pas il y a quelque temps, c'est ça qui est extraordinaire. Et, pour être clair, moi, sincèrement, très souvent, ce sont des hommes qui me disent « bon, voilà, j'ai envie de divorcer » et en gros, ils partent un week-end au pays et puis ils reviennent vous voir en disant « c'est bon, j'ai obtenu un jugement ». Dans des conditions assez secrètes, et je ne pose pas de questions là-dessus, mais je leur dis, ça présente pas l'ombre d'un intérêt. C'est-à-dire que, quand bien même vous seriez marié au pays, à partir du moment où votre domicile principal est sur le territoire français, où votre vie au quotidien est sur le territoire français, il faut vous adresser à un juge du territoire français.
Et il n'y a pas d'exéquature, donc, pour ce genre de divorce?
Non, parce que la difficulté, c'est que, encore une fois, alors je veux dire, le côté tordu, il arrive aussi que des hommes se comportent de bonne foi et puis divorcent de manière carrée. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que monsieur demande à un huissier de faire citer madame, mais pas en France, c'est-à-dire au pays. Mm. Bon, sauf qu'au pays, madame, elle y va pour les vacances, ni plus ni moins. Donc on constate que madame n'a même pas eu le document. Donc monsieur se présente seul avec son avocat. Le juge prononce le divorce. Et quand on veut faire appliquer cette décision sur le territoire français, il y a un contrôle du procureur de la République qui considère qu'il y a, entre guillemets, un côté malhonnête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous convoque pour un divorce, je dois vous convoquer à l'adresse où je suis certain, a priori, que vous êtes installé là-bas et que vous allez obtenir ma convocation. Donc c'est vrai qu'on a, en tout cas moi à mon niveau, tous les exemples que j'ai, ce sont des hommes et pas des femmes qui ont procédé de la sorte. Donc pour pas se compliquer la vie, pour éviter une double procédure, même si vous êtes marié au pays, vous engagez la procédure sur le territoire français et puis là, tout sera carré.
Bien.
Voilà, Amina.
Je vous remercie infiniment.
Merci à vous, Amina, pour votre appel.
Et à bientôt.
À bientôt, Inch'Allah.
Alors, à bientôt.
Merci, bon courage, bonne journée.
Merci, Amina.
Et à toute l'équipe de radio.
Beurre FM, hein. Voilà la radio que j'ai. Merci. Les auditeurs sont sympas, comme disait.
Oui,
merci.
Vrai.
Au revoir, Amina. Donc vous posez vos questions à Maître Serran en direct jusqu'à 10h. Cette question de divorce revient, mais alors depuis la rentrée, Maître Serran, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de ces divorces au bled.
Alors d'abord, ça signifie que j'ai raison, c'est-à-dire que quel est l'intérêt de se marier puisque de toute manière. en règle générale, la probabilité que vous ne terminiez pas votre vie avec cette première personne est plus qu'importante. Donc, il y a beaucoup de divorces, mais indépendamment de ça, vous avez raison. Je vous dis, c'est une question qui nous est posée très régulièrement et très souvent. Encore une fois, voilà, il s'agit pas.
Moi, j'arrive pas à comprendre. On peut se marier, dans son pays d'origine et faire donc exécuter le contrat en France.
Oui.
On est d'accord. Et pourquoi on peut pas faire l'inverse ?
Mais c'est pas qu'on peut pas faire l'inverse.
Mais c'est ça qui me.
Il y a une condition de territorialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous voyez, je vous disais, on est souvent consulté. Moi, j'ai une femme qui est venue me voir en me disant, ça fait 26 ans, on est mariés en Algérie, et qui me dit, monsieur veut divorcer, est-ce qu'il peut divorcer en Algérie ? Mais d'abord, ce serait un non-sens. Et en particulier, si ces personnes sont, au cours de leur vie, sont devenues propriétaires, je sais pas, une licence de taxi, un bien immobilier. Ouais. Donc, à partir du moment où votre vie au quotidien est sur le territoire français et que votre pays d'origine d'origine ou le pays dans lequel vous êtes marié reste le pays des vacances et rien de plus, c'est normal et ça me semble pas aberrant de considérer que c'est le territoire français qui est seul compétent en la matière.
Alors, nous avons Nassima qui nous rejoint. Nassima, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour maître.
Bonjour Nassima.
Voilà, j'avais ma mère qui était résidée en France les années 70. Et elle avait sa carte de séjour. Mais voilà, elle est redescendue au pays et elle est montée les années 80, je ne me rappelle plus, pour renouveler sa carte de 10 ans. Mais après, il y avait ma soeur qui était malade, elle a dû l'aider, elle n'a pas récupéré sa carte de 10 ans. Elle est repartie au pays. Et là, je veux savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que...
Alors, là aussi, c'est une question qui nous est souvent posée. Alors, il faut savoir d'abord qu'il n'y a pas d'automatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une carte de 10 ans ou pas, où vous avez été X années sur le territoire français en situation régulière, et pour des raisons lambda, vous êtes retourné au pays et puis cette carte a périmé, il n'y a pas un automatisme ou une sorte de priorité pour dire bon, ces personnes habitaient d'abord sur le territoire français. Ça va relever de, j'allais presque dire, du bon vouloir. Là, en l'occurrence, ça va être d'abord des autorités consulaires. Donc, il va falloir demander un visa. Alors, j'allais dire d'installation, mais j'ai bien conscience que quand je dis ça...
Non,
c'est ce que j'allais vous dire. Le visa d'installation, celui-là qui peut l'obtenir aujourd'hui, qu'il n'hésite pas à me téléphoner. Donc, voilà, à partir du moment où vous avez définitivement entre guillemets grillé votre carte, ça pose une difficulté. C'est-à-dire que vous n'aurez pas plus de droits ou plus de priorités que quelqu'un qui serait jamais venu au pays, qui demanderait à venir s'installer. Ben, en gros, elle repart à zéro, malgré ses antécédents, malgré le fait d'avoir eu une carte de 10 ans qu'elle a laissée expirer. Parce que ça relève pas d'une faute des autorités administratives. Ouais. Voilà, donc on considère que moi, France, je donne cette carte, si personne vient la récupérer, j'en tire des conséquences. C'est que madame a décidé de faire sa vie au pays.
D'accord, même si on cherche à trouver une trace, on va pas trouver, c'est trop tard.
Encore une fois, c'est-à-dire que, alors d'abord, plus vous avez d'éléments dans ce sens-là, et plus votre dossier sera, entre guillemets, mieux ficelé que quelqu'un qui pourrait ne rien présenter. Maintenant, ce serait pas sérieux de vous dire que, dans l'hypothèse où vous auriez conservé la photocopie de la dernière carte si vous la présentez, les autorités administratives et préfectorales vont pas dire, ah bah tiens, elle nous prouve bien que, donc, on va l'accepter. Ça va être une vraie bataille. Et parce que je le regarde, c'est pas une faute hein, que de retourner au pays ou de pas récupérer sa carte et puis ensuite de faire sa vie au pays pendant X années. Mais moi, ça me semble logique que les autorités préfectorales, à partir du moment où je vous dis voici votre carte, et encore une fois, même si les raisons sont sérieuses pour pas aller la récupérer, on peut pas demander à l'administration française d'être plus royaliste que le roi et en gros d'aller sonner à la porte des uns et des autres de dire attention, vous avez pas récupéré votre carte. L'administration fait son boulot, celui qui récupère pas, malheureusement, tant pis pour la personne, c'est terrible.
D'accord.
Voilà, Nassima.
Merci pour... bonne journée.
Merci, Nassima.
Merci pour votre appel.
Merci, au revoir.
Au revoir, Nassima.
Alors, Maître Serra, nous accueillons Algia qui est avec nous. Algia, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue. Maître Serra nous écoute.
Oui. Alors, je ne me souviens pas si c'était la semaine dernière ou avant, il y avait une question par rapport à ceux qui sont nés en Algérie avant l'indépendance.
Avant 62.
Oui. Alors, j'ai mon papa qui est né en 58. Et je ne sais pas si il pourra faire les démarches pour avoir les papiers ici.
Il est au pays, votre papa ?
Oui, il a jamais. Enfin, il est venu en touriste, mais à chaque
d'accord.
fois.
Alors, quand vous dites les démarches, c'est-à-dire que, à savoir, est-ce qu'il pourrait éventuellement être considéré comme citoyen français du temps de l'Algérie française ?
Voilà.
Alors, dans un premier temps, il va falloir poser la question à un service qui est le service de la nationalité française et qui, pour toutes les personnes qui demeurent à l'étranger, a une compétence, comme on dit, exclusive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous habitez à l'étranger, c'est ce service-là, il se trouve au sein des locaux du tribunal judiciaire de Paris. Et c'est ce service de la nationalité française, donc à qui vous allez fournir tous ces éléments, qui va étudier le tout, qui va éventuellement regarder, enfin pas éventuellement, qui va vérifier au niveau des archives les informations données, qui sera amené à vous apporter une réponse pour dire effectivement il entre dans tel ou tel cadre. Deux options, c'est-à-dire soit le service dit oui et puis banco, dans ce cas-là, il obtiendra un certificat de nationalité française et il aura la possibilité d'obtenir une carte d'identité qui sera remise, qui lui sera remise par les services consulaires. Oui. Deuxième option, le service de la nationalité française motive en disant, écoutez, c'est pas possible parce que telle ou telle raison. À ce moment-là, il faudra quand même examiner avec attention ces raisons. Il arrive parfois que les réponses apportées par le service de la nationalité française, qui sont des réponses de refus, eh ben, sont pas sérieuses ou motivées. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de contester éventuellement devant le tribunal judiciaire. Donc, c'est dans le même lieu où se trouve le service de la nationalité française, tout en sachant que interroger le service de la nationalité française, l'avocat n'est pas obligatoire. Bon. Toujours ma petite réplique, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Par contre, si c'est un refus que vous souhaitez contester, l'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mais pour les premières démarches, il n'y a pas
d'obligation. Encore une fois, je le redis, moi je suis pas maçon. Si j'ai un mur à monter, j'appelle un professionnel. Après, c'est au choix de tout à chacun. C'est conseillé, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire la demande tout seul.
D'accord. Ok, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Aldia, pour votre appel.
Bonne journée à vous, au revoir.
Merci. Oussine est là au 01 53 48 3000. Oussine.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
J'ai un demande à monsieur Serran pour ma fille.
Oui, on vous écoute, Oussine.
J'ai une fille, elle a 4 ans et elle a 4 jours de 5 ans. Et maintenant, je demande, est-ce que pour renouveler, c'est possible pour demander la nationalité ou...
Vous pouvez, encore une fois, solliciter la nationalité, mais tout en sachant qu'en fait, il vaudrait mieux attendre. Alors d'abord, il vaudrait mieux renouveler, mais il vaudrait mieux attendre l'âge de 13 ans. Vous savez, il y a des sortes de paliers comme ça où ça pose pas de difficultés. Et à cet âge-là, elle l'aura sans aucune difficulté.
Ok, et maintenant je fais juste la demande de renouveler et 4 séjours normal, c'est ça?
Vous pouvez faire la demande de renouvellement, on va dire classique en la matière, et puis évidemment, ça va être renouvelé sans aucune difficulté, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça.
Ok, et pour moi, ça fait 8 ans que je suis là, je suis avec les papiers, je travaille, et c'est possible pour faire une demande?
Une demande de?
De nationalité.
Ah, mais bien sûr, monsieur, vous pouvez faire une demande de nationalité. Alors, il y a évidemment toute une série de critères à réunir. Des critères qui sont liés à votre activité professionnelle, au salaire que vous pouvez percevoir. Si votre dossier, entre guillemets, est propre, si vous n'avez jamais été condamné, convoqué par la police, on va également tester vos connaissances de culture générale, un peu l'histoire de France, la géographie, voir si vous parlez français entre guillemets correctement, mais sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça quand même, parce que d'abord c'est un processus qui est long, donc quitte à suivre cette voie-là, il faut quand même bien s'y préparer, c'est important.
Il faut préparer, c'est ça.
Je vous entends parler. Après, bon, on n'a pas échangé suffisamment longtemps ensemble pour voir si vous maîtrisez le français ou pas. Mais faut faire attention à ça. C'est évidemment un critère qui va être important. Et puis il y a une histoire de culture générale. Donc, ça se travaille. Il suffit pas juste de parler entre guillemets un peu le français ou même de parler correctement le français, mais de pas avoir telle ou telle connaissance, on peut se faire recaler. Donc, c'est une sorte de concours. Donc, il faut préparer ça à l'avance quand même.
Il a demandé, je fais à la mairie ou à la préfecture?
Non, ce sont les autorités préfectorales qui sont compétentes pour ça. De toute manière, vous verrez, vous allez sur Internet, vous tapez nationalité française, il y a un dossier qu'il va falloir télécharger, toute une série de pièces, de documents à réunir, et à partir de là, une fois que vous l'envoyez, donc le processus va s'enclencher. Mais en tout cas, l'histoire de la culture générale, vraiment faites attention à ça, parce qu'ils sont très pointilleux, Et pour peu que une ou deux réponses ne soient pas apportées, on peut vous recaler là-dessus. Donc voilà, je vous dis, c'est comme un examen, ça se prépare.
Ok, il faut préparer bien.
Ouais, le préparer très sérieusement.
Ok, merci beaucoup.
Merci Houssine pour votre question.
Merci Houssine.
La racaille du barreau de Seine-Saint-Denis est avec nous et répond à toutes vos questions, Maître Serran, jusqu'à 10h. Je rappelle que si vous voulez poser ces questions à Maître Serran, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran répond à vos questions jusqu'à 10h au standard de Beurre FM 01 53 48 3000. Nous avons Louisa qui vous appelle, Maître Serran. Louisa, bienvenue.
Allô, bonjour.
Bonjour Louisa.
Bonjour Louisa.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran. Je suis ravi de vous avoir.
Pareillement.
Avec vos belles voix. Alors j'ai une question d'ordre juridique, s'il vous plaît.
Ah bah merci, c'est Louisa. Mieux parce non, que Maître Serran...
D'abord, je vais répondre sur le thème belle voix. Merci, Louisa.
Voilà. Vous écoute, alors, Louisa de l'oreille.
Merci beaucoup. J'accompagne une vieille dame bénévolement. Et j'ai déménagé, mais je continue toujours à l'accompagner. Et j'ai une question parce que j'ai fait appel à une association pour avoir conseil. Et cette association demande de la mise sous tutelle de cette dame, sachant que je ne suis pas membre de sa famille. Et je me demande si c'est une bonne chose, parce que cette dame me fait confiance. Est-ce que je continue dans cette démarche?
Alors, c'est important là, de prendre l'initiative, entre guillemets, d'une mise sous tutelle ou sous curatelle. D'abord, est-ce que vous considérez que cette dame n'aurait plus toutes ses capacités, et qu'il faudrait peut-être envisager ce qu'on appelle une mesure de protection, une mise sous tutelle ou curatelle?
Tout de suite, peut-être pas, mais il faudra peut-être faire quelque chose, oui.
D'accord, elle a pas de famille?
Elle n'a pas de famille, elle a un site qui ne prend pas de ses nouvelles, et voilà, donc elle n'a pas de contact avec lui.
Bon, après, encore une fois, si vous considérez qu'elle est dans ce besoin-là et qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une mise sous tutelle ou sous curatelle, d'abord un procureur de la République pourrait prendre l'initiative. Il n'y a rien qui vous interdirait de saisir également un juge des tutelles. Mais vous, est-ce que, alors je ne dis pas que ça va être simple, mais est-ce que vous seriez prête à assumer cette responsabilité ou pas ?
Non,
d'accord. Donc vous considérez qu'elle en a besoin, mais vous ne m'appelez pas pour dire que vous souhaiteriez que ce soit vous.
Non, pas du tout. C'est un conseil d'une association pour cette mise en tutelle, mais moi, je ne me connais pas trop dans le domaine.
D'accord.
Je ne sais pas quel intérêt elle aura. Est-ce que, comme elle me fait confiance, c'est moi qui vais être là pour traduire...
Alors, il faut savoir que si le juge considère qu'aucun membre de la famille ne veut assumer cette responsabilité, ou alors vous me parlez d'un fils qui donne plus signe de vie, si le juge considère que des proches, alors on n'a pas de lien, mais des amis de l'intéressé ne seraient pas non plus ne voudraient pas assumer cette responsabilité, la mise sous tutelle sera organisée par une association, et c'est le juge des tutelles qui désignera l'association X, Y ou Z. Et pour répondre à votre question, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est de faire en sorte que, alors je ne sais pas si cette femme perçoit des revenus, j'imagine qu'elle a des charges, pour éviter s'il y a vraiment entre guillemets une perte de ses facultés, pour éviter qu'elle fasse tout et n'importe quoi, pour éviter qu'elle se fasse éventuellement piller par des personnes qui auraient de mauvaises intentions. Donc le rôle de l'association ou de la personne qui sera ou serait désignée pour assumer cette mission, ça va être de contrôler tout ça.
D'accord.
Donc c'est une vraie mission, hein. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous seriez éventuellement intéressé, mais c'est une vraie mission. Et puis une fois par an, il faut justifier des comptes auprès du juge des tutelles. Donc voilà, c'est entre guillemets, c'est un boulot à plein temps. Et si on a l'impression que tout ça est fait avec légèreté, on peut aussi engager sa responsabilité. Donc c'est pas anodin comme mission quand on accepte cette mission.
Non, moi je sais qu'à l'avance je ne ferai pas cette mission, je n'ai pas le temps et je ne suis pas bien placée. C'est, mon rôle sera de traduire à cette dame qui parle pas français. Enfin, devant cette association, je vais traduire en fait la démarche. Et elle va me demander quel intérêt, et moi je sais pas trop, c'est pour ça que je vous ai appelé. Pour
bien sûr, encore une fois, c'est-à-dire que voilà. Si vous avez l'impression, entre guillemets, on va parler familièrement, qu'elle perd un peu la tête, ou alors qu'elle n'a pas la notion de d'argent, donc tout ça est important pour éviter qu'elle se fasse méchamment piller. Donc ça vaudrait le coup de faire ce signalement et puis de dire que peut-être que cette femme a besoin, encore une fois, d'une autorité qui puisse la assurer sa protection et faire en sorte que sa vie quotidienne se fasse un peu plus simplement et de pas tomber sur X ou Y qui pourrait, si elle a de l'argent, vider ses comptes, ou même si elle a pas beaucoup d'argent, utiliser son chéquier et ainsi de suite.
D'accord. Donc, je ferai cette traduction tranquillement à partir du moment où vous m'avez conseillé, et puis ce sera important pour elle.
Bah, c'est une bonne chose, encore une fois, notre vie aussi ponctuée de gestes de cette nature, comme on dit, fils à Billah, donc l'initiative est bonne.
Oui, merci infiniment à vous, bonne journée.
Merci à vous pour votre appel.
Ravie encore de vous avoir, tous les deux.
Merci, plaisir partagé, Louisa. Sarah est avec nous. Sarah, bienvenue. Coucou.
Oui, bonjour.
Bonjour Sarah.
Bonjour Monsieur Philippe.
Bonjour Madame Sarah.
Bonjour Sarah.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, je vous remercie. Et vous-même?
Merci beaucoup. Alors, j'ai une question, en fait. Je rentre directement sur le sujet. Je travaille comme un auxiliaire de vie, ça fait 3 ans. Et j'ai une résidence, apparemment bientôt 4 ans. Est-ce que j'ai le droit de demander la nationalité?
Encore une fois, c'est-à-dire que en la matière, en vérité, à partir du moment où vous avez 2-3 ans sur le territoire français, vous pouvez solliciter la nationalité française. C'est pas tant sur le timing, c'est-à-dire c'est pas le fait de dire ça fait 2-3 ans ou 4 ans que vous êtes sur le territoire français qu'on pourrait, on va dire, vous tacler. Alors il faut pas le demander au bout d'un an, mais c'est pas tant sur le timing que sur le reste. Le reste est important, et le reste, c'est que les autorités françaises veulent vérifier si financièrement vous êtes, j'allais dire, totalement, on va dire, autonome. Alors autonome, ça veut dire qu'il faut gagner un certain salaire. On va prendre en considération votre situation familiale. Vous êtes marié, pas marié, vous avez des enfants, majeurs, pas majeurs. Parce qu'il faut savoir que quand on a des enfants qui ne sont pas majeurs, à partir du moment où je vous donne, moi, France, la nationalité française, automatiquement, vos enfants vont pouvoir en bénéficier. Donc, il y a tout ce contexte qui est à prendre en considération, et notamment l'activité professionnelle et votre salaire, tout simplement. Donc, ce sont vraiment des éléments qui sont pris en considération avant tout par les autorités françaises. Et puis, d'accord, évidemment, si vous avez, entre guillemets, un dossier propre, c'est-à-dire un connu des services de police, j'avais placé en garde à vue, enfin voilà, ça me semble évident, mais il y a cet aspect-là aussi qui est pris en considération.
D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup, maître.
Merci, Sarah.
Merci, Sarah.
Allez, je vous souhaite une excellente journée.
Merci, et passez un bon week-end. Karim est là, au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue.
Allô?
Oui, Karim.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Karim.
Bonjour. Alors, ma question, ça concerne la demande de la nationalité. Moi, en sachant que ça fait 18 ans que je suis sur le territoire français, je suis marié avec une Française, j'ai 3 enfants qui sont nés ici en France. J'ai 2 qui sont déjà scolarisés, le dernier, ça fait pas longtemps, ça fait même pas une semaine. Je voulais savoir juste les démarches, parce qu'il y en a qui m'ont dit tu peux passer par le tribunal, il y en a qui m'ont dit la préfecture.
Ça relève des autorités préfectorales, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez sur internet, vous avez la possibilité de télécharger un dossier, alors vous verrez, il y a toute une liste de documents, de pièces à réunir, et puis une fois que ce dossier est complet, vous le renvoyez auprès des autorités, et le processus va s'enclencher. Mais compte tenu de ce que vous êtes en train d'évoquer, voilà, ça, vous réunissez, entre guillemets, largement les conditions pour espérer une réponse favorable.
Et je sais, j'ai tout, ouais, j'ai tout. Même le dossier, il est presque complet. Et voilà, j'ai même passé le test, j'ai eu le résultat positif.
Donc il y a rien qui a priori s'oppose à ça.
Non, mais je voulais savoir, c'est-à-dire, est-ce que c'est mieux que je passe par un avocat ou...
C'est encore une fois, je le redis, c'est-à-dire que...
Quels sont justement les intérêts de passer par un avocat?
Alors, comme dirait l'autre, l'avocat va d'abord regarder si tout est carré. L'avocat va entrer en contact avec les autorités préfectorales pour voir à quel stade votre dossier se trouve. Enfin, voilà, le rôle de l'avocat, c'est ça. Et puis, pareil, ce sont des procédures qui sont longues. Ce serait pas sérieux, quand même, de dire qu'à partir du moment où vous prenez un avocat, le délai de réponse va être accéléré. C'est faux. Ça permet quand même à l'avocat de les contacter, d'aller sur place, de entre guillemets, on va dire, de les bousculer un peu pour faire en sorte...
De le piquer de temps en temps.
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. De temps en temps, ils ont besoin effectivement d'une piqûre de rappel. Ouais. Donc le rôle de l'avocat, ce serait ça. Après, vous avez bien compris que à partir du moment où l'avocat n'est pas obligatoire, vous faites la procédure seule, ça vous coûtera rien. Vous passez par un avocat, vous aurez des honoraires à régler. Donc ça va se jouer là-dessus. Mais je le redis, en la matière, l'avocat est fortement conseillé, mais pas obligatoire.
Pas obligatoire. Ouais, j'ai bien compris. D'accord. Et quand vous êtes passé sur 93, moi je suis dans 93. Donc je peux prendre rendez-vous.
Ah, mais bien sûr.
Ah, ça sent une demande de rendez-vous, ça. Oui, effectivement.
Bah, écoutez, là, je communiquerai mon numéro de téléphone là tout à l'heure. Et puis il y a pas de difficulté. Vous appelez quand vous voulez, monsieur. Il y a aucun problème.
Et alors, est-ce que si on passe par vous, Maître Serran, on a forcément sa nationalité?
Oh, ce serait pas sérieux. Voilà,
La question est là, Maître Serran. Est-ce que si on passe par le Maître Serran de la radio, est-ce qu'on a plus de chances?
Évidemment, puisque j'ai toutes mes ouvertures et je déjeune très régulièrement avec le préfet. Et à chaque fois que je déjeune avec lui, je vais avec tous les dossiers de mes clients pour obtenir la nationalité française et des titres de séjour. Donc n'hésitez pas à m'appeler, ça se monnaie évidemment, voilà, vous aurez un bon résultat.
Comme ça c'est fait.
Voilà. Tout
comme
est
ça,
dit.
Comme ça je vais faire la pub.
Et ben on fait comme ça.
Bon, si la préfecture nous écoute, évidemment tout ça est à prendre avec beaucoup de recul quand même et de distance.
Et là comment je peux avoir votre numéro?
Je vais vous le donner tout de suite.
Attendez.
Vous avez de quoi noter?
Vous êtes trop bon, Maître Serran. Vous donnez votre numéro comme ça à l'antenne, vous. Vous donnez votre 06 ou votre 01?
Non, le 06.
Vous avez encore un 01?
Non.
Ah non?
J'en ai un, mais...
Personne ne vous appelle sur le 01.
Personne ne m'appelle sur le 01, donc il ne me sert à rien, en fait. Donc,
06. Ouais.
Alors, 06, 62.
62.
58.
58.
59.
59.
64.
64.
4.
06, 62, 58, 59, 64.
Tout est dit.
J'espère que la préfecture, ils ne sont pas à l'écoute.
Ah bah écoutez, enfin, en même temps, je ne dis pas que des bêtises lorsque je dis que je les contacte très régulièrement.
Bon.
C'est vrai, je ne suis pas un intime du préfet, je ne connais pas personnellement son épouse, mais il sait que j'existe.
Voilà, allez.
C'est l'essentiel.
Je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci pour votre appel, Karim.
Merci, au revoir.
Au revoir, Karim.
Et alors, vos rapports avec le consulat, ça, est-ce que ça, aussi, la préfecture, le consulat, bien sûr.
Ouais, le consulat. D'ailleurs, il faut justement que je me mette en contact avec le consulat, j'ai des passeports à renouveler.
Bon. donc là, c'est le moment de dire du bien.
Ouais. Mais je dis du bien du consulat. Mais bien sûr, le consulat d'Algérie. Oh. Mais vous avez déjà été au consulat, quand vous n'êtes pas pistonné, vous savez comment ça se passe?
Moi, j'y suis allé,
Ouais. Et ça se passe comment quand on n'est pas pistonné? C'est-à-dire qu'il faut prendre tout son week-end.
Moi, c'est une légende, ça.
D'accord.
C'était avant, ça.
Non, c'était pas avant. C'était pas avant. Et puis, des fois, vous avez des gens pas spécialement sympathiques.
Non, c'était avant, ça. Voilà.
Mais, comme tout à chacun, et puis par l'intermédiaire de la radio, effectivement, on connaît les bonnes personnes, alhamdoulilah.
Maître Serran, que nous retrouvons vendredi prochain. Demain, je vous donne rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun, le samedi. L'imam qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Maître Serran, qui...
J'étais ravi de l'avoir au téléphone.
Qui fait un petit bisou, oui. L'imam Abdelali Mamoun, 10h-11h, pour l'islam au présent. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour les petites annonces.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.